Nous poursuivons avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donald Trump obtient un nouveau traité de libre-échange avec le Canada, un incontestable succès, mais la portée économique réelle doit encore être expertisée. Nous irons au Canada dans un instant. Ottawa, vous l'entendrez, a cédé sur ses quotas laitiers.
Et puis nous ferons aussi un point sur la situation en Indonésie après le tremblement de terre et le tsunami. Le bilan ce matin est de 832 morts. Le pays accepte l'aide internationale.
Que vaut un oui à un référendum qui emporte 90% des suffrages, mais qui mobilise un tiers seulement d'une population? Difficile dilemme en Macédoine ce matin après le vote sur un changement de nom du pays. Nous irons à Skopje.
Et puis dans cette édition encore, nous nous poserons la question d'une police municipale à Paris, une police armée. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, est notre invitée et nous répondra à ce sujet.
Et puis dans un quart d'heure, dans le billet politique, Stéphane Robert s'interrogera sur le mandat de maire, justement, qui ne fait plus recette. Il a permis pendant 24 ans d'imbriquer étroitement les économies de trois grands pays, États-Unis, Canada, Mexique, 500 millions de personnes au total. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, n'existe plus. Place depuis cette nuit à l'AEUMC, l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Après avoir parlementé avec les Mexicains, l'administration Trump a réussi à convaincre les Canadiens. Bonjour Pascal Guéricola.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondante à Québec. Pascal, après des semaines de négociations, le Premier ministre canadien Justin Trudeau n'a eu qu'une seule phrase cette nuit. C'est une bonne journée pour le Canada. Qu'a-t-il réussi à sauver ?
Côté canadien, la plus grande victoire, c'est d'avoir réussi à préserver le mécanisme de règlement des différends. Donald Trump voulait absolument abolir le chapitre 19 de l'accord de l'ALENA. Cette disposition prévoit qu'un tribunal indépendant a le droit d'examiner les tarifs douaniers qu'impose l'un des partenaires sur une certaine marchandise. À plusieurs reprises, par exemple, les États-Unis ont taxé le bois de construction canadien sous prétexte qu'il s'agissait de dumping. À chaque fois, le Canada a gagné en prouvant que son prix de vente était légitime. Le président Trump a obtenu toutefois que le marché américain reçoive moins de voitures canadiennes. En échange, elles ne seront pas frappées d'un droit de douane exorbitant, comme l'avait laissé entendre la Maison-Blanche il y a quelques mois. Autre concession côté américain, le Canada conserve son exemption en matière culturelle, lui permettant ainsi de protéger son marché.
Mais si Donald Trump a approuvé cet accord, c'est qu'il doit quand même, Pascal, y avoir des concessions faites par Ottawa pour Washington.
Essentiellement, le gouvernement canadien accepte d'ouvrir une partie de son marché aux produits laitiers américains. Jusqu'à présent, le lait en provenance des fermes des États-Unis se voyait frappé d'une taxe de 300% en franchissant la frontière canadienne. Désormais, un certain pourcentage de lait bénéficiera d'une exemption douanière. Cette mesure provoque la fureur des producteurs laitiers canadiens. Personne ne leur a demandé leur avis. Déjà, ils avaient concédé une certaine proportion de leur marché protégé à l'occasion de la signature d'un accord commercial avec l'Europe, puis d'un autre avec des pays asiatiques. Cette brèche dans le système de gestion de l'offre, comme on l'appelle ici, va surtout faire mal au Québec, où se concentre la production laitière. Et cela pourrait nuire au Premier ministre sortant québécois qui se présente aujourd'hui devant les électeurs.
Merci Pascal Guéricola depuis Québec ce matin pour France Culture. À la Maison-Blanche, pendant ce temps, un haut responsable de l'administration Trump a évoqué cette nuit un accord fantastique, accord qui sera réexaminé tous les 6 ans. Après le tremblement de terre et le tsunami en Indonésie, les autorités cherchent à limiter les risques sanitaires sur l'île de Célèbes. Elles vont donc organiser rapidement tous les enterrements par centaines. Le bilan ne cesse d'augmenter. Il est ce matin de 832 morts, un demi-millier de blessés, mais aussi des décombres par milliers à soulever. L'aide de première nécessité peine à arriver dans les zones les plus touchées, coupées de tout, eau, électricité, nourriture, ou tout simplement d'un toit pour s'abriter. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Nathanaël, le gouvernement indonésien a accepté ce matin l'aide que lui proposent plusieurs pays.
Oui, les autorités locales sont totalement mobilisées sur place, mais cela ne suffit pas. Rien que la ville de Palu, ce sont 350 000 habitants qui y vivent. Mais il y a aussi des besoins dans le nord de l'île, dans la région de Donggala, où les informations sont plus difficiles à recevoir. Conséquence, le président indonésien a donné, vous venez de le dire, son accord pour que les pays qui le souhaitent puissent intervenir. La France en fait partie. Il faut savoir que la mobilisation a déjà commencé. On peut citer le groupe de secours catastrophes français, une association humanitaire de sapeurs-pompiers basée dans le nord de la France. Une équipe de 4 personnes doit partir ce lundi avec du matériel et notamment un vibraphone. C'est un appareil qui permet d'écouter sous les décombres et de repérer les victimes qui seraient encore coincées. Le Secours populaire a débloqué une première enveloppe de 50 000 euros pour venir en aide à 5000 personnes sur l'île. Ces équipes sur place sont déjà au travail et distribuent de la nourriture, de l'eau, des kits d'hygiène. L'UNICEF, qui vient en aide aux enfants dans le monde entier, a lancé hier un appel aux dons. Toutes les informations sur son site internet. Mais l'aide internationale, c'est aussi l'Union européenne qui met à disposition un satellite pour aider dans les recherches. Il faut savoir qu'il y a urgence car c'est une véritable course contre la montre qui a été enclenchée pour sauver le maximum de monde.
Merci Nathanaël Charbonnier pour ces précisions. L'Iran annonce avoir attaqué à l'aide de missiles balistiques un quartier général de terroristes, selon les mots de Téhéran, un quartier en Syrie, à l'est de l'Euphrate, et cela en représailles de l'attentat qui a visé la ville iranienne d'Avaz le 21 septembre dernier. 24 personnes étaient mortes lors d'un défilé militaire. Il y a 3 ans, par ailleurs, en Syrie toujours, la Russie intervenait pour la première fois aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Depuis, les frappes russes ont fait plus de 18 000 morts, dont près de 8 000 civils, chiffre donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Difficile de lire les résultats du référendum en Macédoine qui a été organisé hier. Le oui l'a emporté pour troquer le nom de République de Macédoine en une République de la Macédoine du Nord, comme le demande Athènes. Cela permettrait au pays de déposer une demande d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Le oui donc à 91%, mais avec un très faible taux de participation, 30% environ. Tous ceux qui avaient été appelés au boycott ont donc fêté leur victoire hier soir devant le Parlement à Skopje, où se trouvait pour France Culture Marie-Pierre Véraud.
Drapés dans les bannières rouges et or de Macédoine, agitant force drapeaux, les partisans du boycott célèbrent leur victoire. Nous allons garder notre nom, nous sommes la Macédoine. Et n'allez pas leur dire que se referme la porte de l'Union européenne et celle de l'OTAN.
Nous, on veut rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, nous voulons rentrer avec notre nom constitutionnel.
Nous voulons rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, mais pas au prix de perdre notre identité, de perdre notre visage et notre dignité.
Beaucoup se sont sentis humiliés par les exigences grecques et les pressions de l'Europe. Athanas Maïkovski les a mal vécus.
Même les oiseaux savent très bien ce qui s'est passé ici en Macédoine. Ces dirigeants du monde entier qui sont venus tenter de nous convaincre que nous devions changer de nom. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, que c'est fair-play? Je descends d'une famille du nord de la Grèce, c'est la Macédoine ethnique. Les tombes et les maisons de mes ancêtres sont là-bas, et eux, ils veulent effacer tout ça.
Les crispations identitaires vont continuer à peser sur l'avenir de la Macédoine. Malgré sa volonté de s'appuyer sur les 90% de oui, le Premier ministre est affaibli par le désaveu d'une forte majorité de la population.
Car si le Parlement s'est engagé en Macédoine à respecter ce référendum, le seuil de participation 50% n'a pas été atteint hier. Certains députés pourraient donc ne pas se conformer à ce résultat.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal. Paris aura-t-elle sa propre police municipale ?
La capitale, en tout cas, est la seule ville de France dont le préfet détient le pouvoir de police générale. Ailleurs, ce pouvoir dépend du maire. À Paris, donc, notre invitée ce matin sur France Culture, Anne Hidalgo, a déjà évoqué cette idée, expliquant que rien n'était tabou, ni l'idée d'une telle police, ni celle de son armement. Avant de vous interroger à ce sujet, Anne Hidalgo, faisons un point avec Christine Monclat sur ce double enjeu politique et sécuritaire.
Les agents de sécurité parisiens sont inquiets, particulièrement depuis les attentats dans la capitale en 2015. Ils se sentent eux aussi menacés. Résultat, tous les syndicats représentés chez ces agents plaident aujourd'hui pour la création d'un corps de police municipale armé. Or, Paris, qui s'est soulevé contre l'État central par le passé, est restée une ville sans pouvoir de police. Et c'est donc bien à un tabou qu'Anne Hidalgo s'attaque ici, ainsi qu'à un défi financier. Selon un rapport interne à la ville cité par le journal Le Monde, armer une police municipale parisienne coûtera 10 millions d'euros par an. Preuve qu'elle ne parle pas en l'air, Anne Hidalgo a déjà lancé un audit pour sonder ses services, mais aussi les acteurs de la police, de la justice, des transports sur Paris. La police nationale, elle, qui réclame toujours des moyens pour agir et protéger ses propres agents, redoute une confusion des rôles. Qui fera quoi particulièrement en cas d'attaque terroriste ? Au sein de son conseil municipal, les camarades socialistes d'Anne Hidalgo, eux, sont divisés. Les écologistes et les communistes sont vent debout contre cette hypothèse jugée droitière. L'opposition de droite, justement, milite, et depuis longtemps, pour une telle police municipale. Et c'est bien aussi pour devancer l'appel des élections de 2020 qu'Anne Hidalgo sort du bois maintenant, puisque même ses potentiels adversaires En Marche se disent eux aussi favorables à cette option. Pour l'ex-hollandais Gaspard Ganzer, une police municipale armée, c'est même, je cite, « une des toutes premières priorités pour Paris ».
Anne Hidalgo, vous êtes la maire de Paris, invitée des Matins de France Culture. C'est une nouvelle position que vous adoptez là. Pourquoi rogner les pouvoirs du préfet de police pour éventuellement mettre en place une police municipale parisienne ?
D'abord, aucune décision n'a encore été prise. Là encore, comme tout à l'heure sur le sujet de la gratuité des transports, la seule question que nous ayons à nous poser et que j'ai posée en tant que maire de Paris, c'est celle de la sécurité des Parisiens. Est-elle bien assurée ou pas ? Le dispositif institutionnel est-il performant ou pas ? Paris, comme d'autres grandes villes monde, fait bien sûr face à des défis nouveaux en matière de sécurité. Le défi du terrorisme, on l'a vu. Et je me suis beaucoup exprimée au moment des attentats pour dire que justement cette unité de commandement autour du préfet de police qui représente l'État à Paris était un atout. Lorsqu'il y a eu les attentats de Paris, vous n'avez pas vu à la suite de ces attentats, de chamailleries ou de mise en cause des différentes institutions quant à leur rôle. On a fonctionné de façon très coordonnée dans une coproduction qui est la marque de Paris. Mais nous faisons face aussi à d'autres défis, des
Pourquoi
défis nouveaux.
Repenser le système ?
Celui de la drogue, qui est en train de pourrir des quartiers entiers, partout en Île-de-France, en France, mais aussi à Paris. Le défi de la drogue est un défi nouveau dans la façon dont il se pose avec la recrudescence des trafics et le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, en faisait état directement devant les conseillers municipaux de Paris la semaine dernière. Le défi aussi de la délinquance, des incivilités, des agressions sur personnes qui sont en train d'augmenter. Moi, j'ai souhaité lancer un audit. Là encore, cette méthode. Lancer un audit, voir la réalité, se mettre d'accord.
Mais
est-ce qu'on voit la
Anne
même
Hidalgo,
chose ?
Vous parlez d'audit, c'est effectivement la seconde fois. Vous avez des
oui.
convictions, vous êtes une femme
Bien
de
sûr.
Conviction. Pourquoi décider de lancer des audits ? Est-ce que vous trouvez finalement que votre méthode auparavant ne fonctionnait pas ? Qu'il faut laisser plus de place à la concertation ? Plus de place aux études ?
Parce que ce sont des sujets d'abord très complexes, dans lesquels on ne peut pas aller à la légère. Là aussi, la question, c'est pas est-ce que je suis pour ou contre une police municipale, armée, pas armée, c'est qu'est-ce qui sera le plus efficace pour les Parisiens. Aujourd'hui, on constate, et notamment dans les quartiers du nord-est parisien, je pense à la Porte de la Chapelle, je pense à la Goutte d'Or, à Stalingrad, on constate une augmentation justement de la place de la drogue, des incivilités, une augmentation de la violence. Les maires du nord-est parisien, je pense à François Dagneau, je pense aussi à Éric Lejoindre, ont alerté à plusieurs reprises, moi-même avec eux, il y a moins de policiers. Il y a moins d'effectifs sur le terrain. Il y a une situation dans laquelle, et ça relève d'abord de la police nationale. Et donc, nous devons nous poser, est-ce que aujourd'hui, compte tenu des défis, et notamment en matière de sécurité qu'une ville comme Paris a à relever, est-ce que le dispositif que l'on a aujourd'hui avec police nationale, préfecture de police et des équipes que j'ai renforcé, puisqu'on a plus de 3000 agents aujourd'hui qui sont chargés de la lutte contre les incivilités au quotidien. Est-ce que ce dispositif-là est performant ?
Et vous
Je pense qu'il est perfectible. Je pense qu'il est vraiment perfectible. Mais la question d'une police municipale, et c'est pour ça que je ne veux pas m'aventurer sans savoir et sans avoir posé la question et sans que les Parisiens eux-mêmes sachent, un, combien ça coûte, deux, est-ce que c'est plus efficace. Je veux vraiment qu'on renseigne ces sujets-là pour que là aussi, on fasse les bons choix. Si on part simplement d'une question posée d'un point de vue politique, parce que la question de la police municipale, elle serait plus de droite ou de gauche et qu'on ferait, ou de la triangulation, ou de l'opposition bête et méchante, ça n'a pas de sens. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat pour les Parisiens. C'est pour ça que j'ai préféré cette méthode.
Merci Anne Hidalgo, vous êtes l'invitée des Matins de France Culture et on vous retrouve après ce journal. Un petit plus sur les fiches de paie des salariés à la fin du mois. Les cotisations salariales pour l'assurance chômage disparaissent aujourd'hui, 1er octobre. Les salaires nets vont donc augmenter. Le manque à gagner pour l'État a déjà été contrebalancé par une hausse de la CSG pour l'ensemble des revenus. C'était en janvier dernier. Ils sont religieux, anciens ministres, avocats, victimes. Un groupe de personnalités a réclamé ce week-end une enquête parlementaire sur les crimes pédophiles dans l'Église française. Une demande formulée dans le magazine Témoignage chrétien, Laura Dulieu.
Les signataires veulent faire la lumière enfin sur les agissements pédophiles au sein de l'Église catholique française. Selon l'avocat et éditorialiste Jean-Pierre Mignard, cette commission parlementaire ne peut être que bénéfique pour le clergé.
Elle permettrait de savoir, elle permettrait de rendre compte, elle permettrait aussi peut-être de délimiter l'ampleur du problème. Parce que comme nous sommes dans la confusion et le trouble, tout le monde est atteint.
Et pour que tout soit transparent, la commission d'enquête parlementaire est idéale. C'est en tout cas l'opinion de la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, elle-même membre de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla.
Faire intervenir un tiers, c'est-à-dire ni l'Église, ni la justice, ni l'État, mais un tiers qui soit en plus transpartisan, puisqu'une commission d'enquête rassemble toutes les couleurs politiques, et peut pendant plusieurs mois travailler et faire des préconisations, c'est vraiment quelque chose qui s'avère intéressant.
Et parmi les outils d'une commission parlementaire, il y a l'obligation de répondre aux convocations, les auditions sous serment ou la possibilité des poursuites pénales. Une telle commission pourrait aussi, par exemple, exiger la communication des archives des diocèses. L'enjeu, c'est que la France puisse rattraper son retard en la matière, car il n'existe pas de chiffres sur l'ampleur de la pédophilie au sein du clergé dans le pays. Alors qu'à l'étranger, plusieurs commissions indépendantes ont été mises en place en Australie, en Irlande, aux États-Unis ou encore en Allemagne, où un consortium indépendant d'universitaires fait état de plusieurs milliers d'agressions depuis 1946 par plus de 1600 ecclésiastiques. En France, c'est désormais le Parlement qui devra décider de s'emparer ou non de la question.
Laura Dulieu, le temps de ce lundi en France, il sera plus frais avec notamment des averses et des orages à l'est du pays. Il pourrait même neiger sur les Alpes dès 1300 mètres d'altitude aujourd'hui. Par contre, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, le soleil va dominer, tout comme sur la façade ouest. Ce matin, comptez 10 petits degrés à Metz, 12 à Strasbourg, 13 à Brest, Lille, Paris, comptez 14 à Lyon, 15 à La Rochelle et 22 degrés à Nice.